chapitre 18 de l'Évangile selon Jean. Chapitre 18 de Jean. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Ils disent cela afin que s'accomplit la parole qu'il avait dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés ». Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs, il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid. Et il se chauffait. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?» Amen. Nous avons ici un récit de l'arrestation de Jésus et ce récit et les autres qui vont suivre sont naturellement à comparer avec les récits correspondants des évangiles synoptiques. Je vous rappelle qu'on appelle évangile synoptique les trois premiers, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. L'évangile de Jean ayant un tout autre caractère, donc, est distingué des trois premiers par cette désignation habituellement employée d'évangile synoptique pour désigner les trois premiers. Eh bien, dans les évangiles synoptiques, il y a des récits qui sont différents et qui ne figurent pas ici. Par exemple, ici, la comparution chez Anne ne figure pas dans les autres évangiles. Et cela fait dire que Jean a écrit son évangile pour compléter, tout au moins en cela, pas sur les autres points, mais ici en cela, pour compléter ce que disent les évangiles synoptiques, mais non pour reproduire ce que ces évangiles ont déjà eux-mêmes annoncé. Ils étaient écrits bien avant l'évangile de Jean, et Jean ne s'est pas vu dans la nécessité de reprendre des récits qui étaient déjà donnés trois fois dans les autres. Il va ajouter ce que les autres n'ont pas dit. D'ailleurs, le but de l'évangile dans l'ensemble est tout différent que du but des autres évangiles. Et voyez par exemple ici, Gethsémané n'est pas décrit. Les prières et les angoisses de Gethsémané ne sont pas décrites. Nous avons simplement ceci, lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin, c'est bien le jardin de Gethsémané, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Mais tout de suite, on passe à l'arrestation. Le temps des prières, le temps de cette angoisse n'est pas mentionné, non pas que Jean ne le connaisse pas, puisqu'au contraire, il était l'un des trois apôtres à s'approcher le plus près du Seigneur, mais c'est que, étant donné que les relations se trouvent dans les synoptiques, il n'a pas jugé bon, et le Saint-Esprit ne lui a pas donné de reproduire cela. Le torrent de Cédron, de l'autre côté du torrent de Cédron. Le torrent de Cédron était un torrent qui coulait sensiblement du nord au sud, pas tout à fait, mais enfin, il prenait sa source un peu au-dessus, un peu au nord de Jérusalem, et il descendait vers le sud, allant se jeter dans la mer Morte. Mais ce torrent est surtout à considérer comme une dépression, une vallée, parce qu'il est presque toujours à sec, il y avait un peu d'eau, mais un peu d'eau au moment des fortes pluies, peut-être pendant 2 mois de l'année, le reste du temps, le torrent était à sec. Mais il sépare nettement la colline du temple du mont des Oliviers. Il a une dépression, par conséquent, quand on sort de Jérusalem, comme c'était le cas, quand on sort de Jérusalem, là, il faut descendre dans le lit de ce petit torrent et puis remonter de l'autre côté. Il est une séparation. Gethsémané était un lieu où Jésus aimait à se rendre, c'est rappelé ici, lieu de nombreuses réunions de Jésus et de ses disciples dans ce lieu qui, considère-t-on généralement, appartenait à un ami de Jésus. Et il faisait nuit, bien sûr, la nuit était même assez avancée. Et voici que Judas vient, lui, le premier, marche en tête de toute une foule, de toute une troupe. Les évangiles synoptiques parlent d'une foule. Et ici, Jean nous dit que cette foule était composée d'huissiers envoyés par les principaux sacrificateurs et les pharisiens, c'est-à-dire par le Sanhédrin, d'huissiers donc d'une part qui étaient les agents, les sergents du temple, sergents du temple, et puis alors la cohorte. Judas avait mandé la cohorte romaine, la cohorte, une partie de la cohorte, parce que la cohorte c'est quelque chose de très important, mais une partie de la cohorte, et le tribun était là. Nous voyons au verset 12, la cohorte, le tribun et les huissiers. Le tribun était là. Voici donc, n'est-ce pas, les huissiers du temple, l'initiative vient bien entendu du temple, c'est-à-dire du Sanhédrin, Et la cohorte a été mandée par Judas pour cette arrestation. Voilà donc toute une troupe bien équipée de lanternes, de flambeaux et d'armes. On se demande contre qui cette troupe vient livrer bataille. La cohorte, elle représentait au moins un demi-millier d'hommes, 500 hommes, 500 ou 600 hommes, et elle n'était pas au complet, bien entendu, mais enfin, il y en avait une partie peut-être assez importante tout de même. Alors, contre qui vient-on livrer bataille? Contre 12 hommes, Jésus et les 11, contre 12 hommes qui n'ont que deux épées. Et pense-t-on que Jésus va à ce moment-là se défendre, qu'il va se défendre? Enfin, c'est disproportionné d'amener toute cette troupe là, les sergents du temple, qui étaient peut-être assez nombreux, et puis la cohorte romaine pour aller arrêter même pas les 12 hommes, puisque c'est Jésus que l'on veut. On ne cherche pas tellement ses disciples, c'est Jésus que l'on veut. Vous voyez comme les Juifs étaient loin de la pensée du Seigneur en pouvant supposer que celui-ci allait livrer bataille. On savait qu'il n'avait pas d'armes et nous savons par lui qu'il avait seulement deux épées. Et cela depuis peu d'ailleurs. Hein? Et encore est-il que c'était quelque chose qui devait rester symbolique. L'Évangile nous dit que Jésus, voyant venir cette troupe, s'avança. Il s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous ?» Sans doute, Judas a-t-il donné son baiser à ce moment-là. Jean n'en parle pas du baiser, le fameux baiser de Judas, n'est-ce pas ? Par un baiser, il trahit son maître. Il est évident que dans la nuit, n'est-ce pas, représentons-nous la chose, les vêtements des Juifs créaient une difficulté à reconnaître les personnes. Il faisait froid, par conséquent, c'était à une période de l'année froide, et au début de l'année, et par conséquent, il est certain qu'ils étaient vêtus, surtout la nuit, n'est-ce pas ? Peut-être avaient-ils la tête même couverte, et voyez par exemple, pour nous en donner un exemple, des musulmans avec leur burnous, hein, eh bien, vous voyez là, vous voyez des musulmans, et pour aller les reconnaître, pas, il faudrait aller tout près, regarder soulever un peu le burnous pour voir quel est le visage. Mais dans la nuit, on ne peut pas reconnaître facilement quelqu'un. Il faut que ce soit donc une personne qui soit assez familière de celle qu'on cherche pour la distinguer dans un ensemble d'hommes. Or, il ne voulait pas avoir mauvaise figure et manquer leur coup vraiment à l'endroit à Jésus. C'est pourquoi le rôle de Judas est tout de même nécessaire en cette circonstance, la nuit, par ce froid, et les hommes, Jésus lui-même, n'est-ce pas, étant certainement couvert, bien couvert, et seul Judas pouvait s'avancer, reconnaître son maître et venir le désigner à l'attention des autres par un baiser. Mais en tout cas, lui, l'évangéliste Jean, ne mentionne pas cela. Il marchait au devant de la troupe, nous dit Luc. Et la réponse de la troupe, n'est-ce pas, à la question de Jésus, qui cherchez-vous? La réponse, c'est Jésus de Nazareth. Nous cherchons Jésus de Nazareth. Et alors, Jésus qui s'est avancé, ses disciples sont derrière lui, n'est-ce pas? Il s'est avancé de certain nombre de pas au devant de la troupe. Eh bien, il dit, c'est moi. Il dit, c'est moi. Ce mot de Jésus, est bien simple. C'est moi. Il n'y a rien de bien terrible dans ces mots, n'est-ce pas? C'est moi. Et cependant, voici que quelque chose d'extraordinaire se produit. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Alors, représentons-nous bien les choses. Jésus est devant ses disciples qui sont légèrement en arrière. Et puis, lui, Judas, est devant cette troupe nombreuse, cette foule. Judas est devant. Mais lui, pas tellement devant les soldats et les huissiers. Judas, n'est-ce pas, a reculé, s'est mis à reculer. La foule aussi s'est mise à reculer, mais à reculer d'un mouvement rapide, à reculer sous le coup d'un effroi, d'une épouvante. Une épouvante a saisi ces hommes, Judas le tout en premier, n'est-ce pas, et les autres également. Et puis donc un moment d'épouvante, simplement au moment où Jésus prononce ces mots, c'est moi. Voici, n'est-ce pas, tous ces gens brusquement saisis d'épouvante. Judas, on le comprend, n'est-ce pas, Judas ressentit là un coup, comme si le feu du jugement s'était déjà allumé devant lui. N'est-il pas d'ailleurs en présence, et Dieu a voulu qu'il se trouve en cette minute en présence de celui qui ne peut être désormais pour lui qu'un juge terrible et qu'un feu dévorant. Judas, Dieu l'a voulu certainement en cette minute, n'est-ce pas? Au lieu de voir le maître qu'il connaissait bien après ce baiser, après cette trahison, au lieu de continuer de voir le simple homme qu'était le Seigneur Jésus, il s'est vu en présence d'un juge, du juge terrible, ce sont les expressions de la Bible, juge terrible, feu dévorant. Pour lui, Dieu n'était plus que ça, que le juge terrible et que le feu dévorant. Alors, il recule brusquement sur la troupe, n'est-ce pas? Quand l'épouvante saisit quelqu'un, n'est-ce pas? Il recule, surtout que l'épouvante lui venait de celui qu'il avait devant lui et qu'il voyait comme un feu dévorant. Et c'est alors une panique communicative, Dieu l'ayant voulu, bien entendu, n'est-ce pas? Il y a là quelque chose qui n'est pas naturel, mais bien surnaturel. Nous essayons de voir la scène, n'est-ce pas, de la comprendre, mais nous n'excluons pas du tout une action surnaturelle voulue de Dieu. Alors donc, Judas recule sur la foule, et puis tous se mettent à reculer, peut-être tous ont-ils vu aussi, dans la personne du Seigneur Jésus, n'est-ce pas, un feu. Ont-ils vu quelque chose ou ont-ils simplement dans leur âme été saisis d'un moment d'effroi et d'épouvante? Ils reculent et tombent par terre. Ah, ce devait être joli, n'est-ce pas? La troupe des huissiers, des sergents et puis des soldats romains qui pourtant n'étaient pas des petits-enfants, n'est-ce pas? C'était des soldats aguerris. La cohorte romaine, c'était quelque chose. Eh bien, voici que tout le monde tombe par terre avec les armes, avec tout. Dieu a voulu cette circonstance, certainement, n'est-ce pas, pour montrer que Jésus se livrait. Jésus se livre. D'ailleurs, cette circonstance va aussi servir à Jésus dans ce qui suit, mais il est évident que là, les hommes ont pu voir, et nous pouvons voir aujourd'hui, que Jésus se livrait. Il n'était pas pris, on ne lui ôtait pas sa vie, il la donnait. Quel spectacle ce devait être de voir cette foule tomber par terre. Moi je ne dis pas quelques-uns comme certains commentateurs, je dis que ce qui est écrit dans l'Évangile, ils reculèrent et tombèrent par terre. Moi je vois toute la troupe par terre, abattue comme des soldats de plomb, n'est-ce pas ? Eh bien, quel spectacle! La force du monde, voyez-vous, la force du monde, ça représentait là la force du monde. La force du monde coupable, elle s'écroule en un moment. Dieu n'a qu'à dire un mot et la force du monde s'écroule. Alors, chers amis, s'il en est ainsi et il en est toujours ainsi, je vous recommande de vous appuyer sur la force du monde. Vous vous écroulerez avec lui. Attention, chers amis, que l'esprit du monde ne pénètre pas en nous. J'ai horreur de ça dans l'Église et je crains cela. J'estime que c'est une capitulation, c'est une chose de faiblesse que de s'appuyer encore sur le monde, nous. Mais nous n'avons pas à nous appuyer du petit bout, du petit doigt sur le monde. Nous n'avons rien à demander au monde pour notre travail. Rien. La force du monde n'est devant Dieu que faiblesse. Que Dieu dise un mot, et la force du monde est obligée de s'écrouler. Le monde s'écroule. Faisons ces choses, mes amis, ne nous appuyons pas sur le monde. L'erreur a été commise par l'Église tout au long des siècles. Allons-nous, nous aussi, persister dans cette erreur? Il faut pourtant que, maintenant, puisque le temps n'est pas venu du jugement, il faut que cette force du monde continue de s'exercer. On peut se demander, n'est-ce pas, si après cet instant d'épouvante et cette chute qui aurait dû tout de même être pour eux un moment d'humiliation et puis qui aurait dû peut-être être dans l'humiliation une occasion de réflexion, eh bien on se demande comment ces hommes n'ont pas à ce moment-là, à ce signe, abandonné leur projet. Ils auraient pu se dire, non, vraiment, il y a dans la personne de ce Jésus, il y a une force, il y a une puissance. Non, nous ne pouvons pas arrêter un tel homme. Mais non, les hommes sont aveuglés. Et vous voyez qu'il n'y a que la foi qui puisse vraiment faire œuvre dans le cœur des hommes. La foi, à condition qu'il y ait repentance et humiliation. À condition de cela, sans ça nous n'allons que vers des fausses conversions. Il n'y a pas l'humiliation. Il faut l'humiliation. Dieu fait droit à ceux qui s'humilient. Mais ceux qui gardent l'orgueil dans leur cœur, Dieu leur résiste. Dieu ne leur donne pas. Il faut l'humiliation. Il faut la repentance. Parce qu'autrement, l'aveuglement des hommes, l'aveuglement qui est naturel à tous les hommes, même les hommes qu'on pourrait désigner dans ce monde, il y en a de moins en moins, mais il y en a peut-être encore comme ceux qui ont le sens moral le plus élevé, ceux qui se comportent le mieux dans la société actuelle, eh bien, même ces hommes-là, ils sont dans l'aveuglement. Chers amis, c'est ce que nous devons comprendre. Et l'aveuglement est une chose qui ne peut pas disparaître si la grâce ne vient pas le supprimer. Ces hommes aveuglés vont persister dans leur projet. Ils vont se relever. Je vois tous ces hommes se relevant avec les boucliers, avec les lances, avec tout cela, n'est-ce pas, les épées, se relevant, n'est-ce pas, et puis reprenant, il faut que Jésus leur dise les secours en quelque sorte. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Allons, voyons, remettez-vous. Tous par terre, là, comme des soldats dont les enfants s'amusent. Alors, relevez-vous, alors, qui cherchez-vous? Voyons, le savez-vous, qui cherchez-vous? Qui vous cherchez? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Ils vont persister dans leur projet. Et, chers amis, ça, c'est bien manifeste au milieu de la société des hommes. Les hommes aveuglés se précipitent eux-mêmes dans le gouffre de la mort, dans la destinée affreuse qui attend les hommes rebelles. Ils s'y précipitent eux-mêmes. L'homme va au devant de la mort, pas qu'il est captif, parce qu'il est prisonnier du mal. Et le mal, c'est ce qu'il gouverne. Il n'est pas libre. Les hommes croient être libres avec leur intelligence, avec leur raison. Ils ne sont pas libres. Ils sont captifs. Et Jésus est venu délivrer des captifs. Mais ces captifs, il faut qu'ils demandent délivrance. Il faut qu'ils croient à celui qui peut les délivrer. Cet incident, si on peut dire, cette circonstance qui s'est produite avec une démonstration là de puissance, cela permet à Jésus de faire aussi quelque chose. C'est d'assurer la liberté de ses disciples. Assurer la liberté de ses disciples. Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Et c'est pas une prière. C'est un commandement. Normalement, la troupe aurait dû tout de même arrêter tous les disciples. Ça, on va bien s'en inquiéter d'eux un petit peu après. Hein? Mais c'est un commandement. Laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplit la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Perdu, ça ne voulait pas dire que Jésus voulait leur épargner les mauvais moments d'une arrestation, d'un interrogatoire et peut-être, d'un même sort avec lui, dans la mort. Non, ce n'est pas cela, ce n'est pas du tout cela. Voyez comme il faut réfléchir, ne pas lire trop vite. Ce que Jésus veut leur épargner, c'est tout autre chose. Il veut leur épargner d'être eux-mêmes, de retomber eux-mêmes dans la mort. Dans la mort, cette mort que connaît tout homme et qui ne reste pas le fidèle de son sauveur. Car il aurait été pour eux impossible à ce moment-là. Il leur aurait été impossible, absolument impossible, de supporter l'épreuve d'une arrestation, d'une éventuelle condamnation à mort, n'est-ce pas, étant enveloppés dans la même décision, la même condamnation que leur Seigneur, il leur aurait été impossible de faire cela, ils auraient subi le supplice, n'est-ce pas, un peu de supplice, et ils auraient tous renié leur maître, ils auraient tous succombé, et ils seraient tous revenus aux côtés des Juifs. Vous n'avez pas à se faire d'illusions, ils étaient des hommes de chair. Et leur chair était faible. Jésus avait dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Or, il ne fallait pas cela, c'eût été véritablement alors un gain pour le diable. Parce que les apôtres, étant alors succombants, les apôtres ayant reniant leur maître, et reniant peut-être sans qu'ils puissent le trahissant eux aussi, sans qu'il soit possible après, n'est-ce pas, de revenir à une autre position, eh bien alors, c'eût été la fin de l'Église. La fin avant de commencer, l'Église n'aurait pas pu voir le jour. Ça aurait été, voyez, comme c'était grave, excessivement grave. Il fallait donc que ces hommes soient conservés, tout faibles qu'ils étaient, dans leur chair, n'est-ce pas? Il fallait qu'ils soient épargnés du supplice qu'ils n'auraient pas pu supporter dans la fidélité. Ça aurait été au-dessus de leur force. Et le prophète Zacharie avait dit, épée frappe le berger, et que les brebis soient dispersées. Il fallait que les brebis soient dispersées. Il fallait qu'ils soient dispersés pour ne pas encourir donc ce danger de succomber, eux succomber, n'est-ce pas, en reniant le maître tout à fait. Et puis aussi, il fallait qu'il n'ait pas de participation dans la souffrance et dans la mort aux côtés de leur maître, parce que ces souffrances et cette mort devait avoir valeur de rédemption et il ne fallait pas que la chair s'en mêle. La chair ne peut pas elle, faire rédemption, obtenir rédemption, la chair sainte. Donc, vous voyez, toutes ces raisons, pour toutes ces raisons, il fallait que ces hommes, n'est-ce pas, ne soient pas arrêtés avec Jésus, que liberté leur soit rendue. Et c'est là que Jésus intervient pour les garder, n'est-ce pas, ce moment de manifestation de puissance a causé parmi la troupe assez d'impressions persistantes pour que ces gens-là défèrent à l'ordre de celui qu'ils viennent d'arrêter. Après tout, c'est lui qui importe. C'est la personne de Jésus qu'on leur a demandé. Et à ce moment-là, les versets 10 et 11 nous rapportent ici un incident qui se trouve aussi dans les synoptiques, à savoir que Simon-Pierre, qui avait une épée, puisqu'on en avait deux, l'évangile de Luc nous montre comment le Seigneur avait demandé que l'on ait des épées, pas pour s'en servir bien sûr, mais je ne veux pas en expliquer la raison ici, nous restons sur notre évangile sans aller aux autres évangiles, je l'ai expliqué d'ailleurs l'an dernier. Simon-Pierre donc avait une des deux épées. Alors, tout brave, n'est-ce pas, il tire son épée, et puis le premier homme qui voit là, il s'efforce de lui fendre la tête, parce qu'il aurait été trop adroit de viser l'oreille, n'est-ce pas. En réalité, c'est une maladresse qui lui a fait viser l'oreille et couper l'oreille de Malchus, mais c'est bien la tête qu'il visait, n'est-ce pas. Il visait le crâne, il voulait taper en plein au milieu du crâne. Sa maladresse n'a fait que couper l'oreille, ce qui était déjà bien suffisant. Il lui coupa l'oreille droite. Il faut croire que l'oreille, n'est-ce pas, était presque tombée, elle a été vraiment sectionnée. Hein. Il lui coupa l'oreille droite. Et à ce moment-là, ce que ne nous dit pas l'évangile de Jean, mais nous sommes obligés tout de même de le voir, c'est dit dans l'évangile de Luc seulement d'ailleurs, c'est que Jésus, il faut bien y penser, n'est-ce pas, recolla l'oreille, guérit l'oreille de Malchus. Au chapitre 22 de Luc et verset 51, nous avons ceci, « Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez arrêter, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. » Ainsi, Jésus va faire encore un miracle parmi ceux qui viennent l'arrêter. Là, il y a évidemment une réflexion du Seigneur. Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire. Et s'il avait fallu 12 légions d'anges, n'est-ce pas, dira Jésus aussi ailleurs, eh bien, je les aurais demandé à mon Père qu'il me les aurait procurées. Mais il faut que je boive cette coupe. Et ici, chers amis, prend place en une consigne qui sera celle de toute l'Église, qui devra se porter sur toute la carrière de l'Église, et qu'on peut justifier ailleurs aussi que là, n'est-ce pas? Mais nous voyons ici une consigne, à savoir que l'Église ne devra jamais user de violence. La violence n'est pas pour les membres de l'Église, ni pour l'Église. Hein. Et les armes de l'Église, nous dit l'apôtre Paul, sont spirituelles. Elles ne sont pas charnelles. Ce ne sont pas des épées, des pistolets, des bâtons. Ce sont c'est l'amour, n'est-ce pas? Ce sont des armes de Dieu. C'est l'amour, c'est la foi, c'est la justice qui est portée par les disciples. Voilà quelles sont les armes, le casque du salut aussi. Voilà les armes dont disposent les membres de l'Église. Et ce fut une erreur au cours des siècles, parmi des groupements pourtant très évangéliques, des groupements de gens qui étaient des enfants de Dieu sans aucun doute, et même des enfants de Dieu bien plus fidèles que nous, n'est-ce pas, comme les Vaudois, les Huguenots, etc., ce fut une erreur toutefois de résister à main armée contre les persécuteurs. Si les Huguenots En bien des occasions, s'étaient abstenus de ça, seulement ils avaient commis la petite erreur de s'attacher au coin de terre où ils étaient. Quand ils avaient trouvé un coin de montagne où ils se trouvaient tranquilles, ils s'organisaient si bien que ça leur faisait quelque chose de devoir encore quitter ça et s'en aller, n'est-ce pas? Et alors, à certains moments, puis ne sachant pas toujours où se diriger, alors ils se mettaient à résister. Ce fut une erreur. Ce fut une erreur. Il aurait fallu fuir. Si l'on vous chasse d'un endroit, allez dans un autre. Voilà ce qu'avait dit le maire, n'est-ce pas? Il aurait fallu vraiment être étranger, voyageur sur cette terre. Ils l'ont été un peu, mais ils ont eu tort de résister. Et c'est ce qui fait, d'ailleurs, qu'il y a eu tant de morts. Et voici maintenant la comparution de Jésus devant Anne. Anne, nous est-il dit, était le beau-père de Caïphe. Et Anne n'était pas souverain sacrificateur cette année-là. C'était son beau-fils, donc Caïphe, qui l'était. Anne avait été souverain sacrificateur un certain nombre d'années. Mais c'était déjà maintenant un homme âgé, une sorte de patriarche, n'est-ce pas, et qui était d'ailleurs très... honoré, on usait de déférence pour lui, et il était considéré comme un ancien, et comme un précédent souverain de sacrificateur, on lui attribuait les mêmes honneurs qu'au souverain sacrificateur Caïphe, qui était son beau-fils. Et tous deux habitaient le même palais, un palais. C'est parce que ce que Jésus avait voulu en disant que les fils d'Aaron seraient les souverains sacrificateurs, ils ne les avaient pas destinés à habiter un palais. Mais enfin, à cette époque, c'était un palais. Et il est manifeste que dans ce récit, n'est-ce pas, que, d'ailleurs il y a des mentions qui le confirment, que Anne et son beau-fils Caïphe habitaient le même palais. Pas la même partie, si vous voulez, du palais, n'est-ce pas, mais ils habitaient dans le même grand immeuble, qui était un palais. Alors, on amène d'abord Jésus chez Anne, ce que ne mentionnent pas les évangiles synoptiques. Et on l'amène pour le faire comparaître, mais Anne ne va pas juger, ce n'est pas lui qui va juger. Il va interroger en sa qualité d'ancien, pour lequel, n'est-ce pas, on a beaucoup de déférence, eh bien, on ne peut pas passer outre et amener Jésus directement chez le souverain sacrificateur en exercice, sans passer par chez l'ancien, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, donc, Anne est appelée au cours de cette nuit à recevoir Jésus. Et voici quelque chose qui se produit. D'abord, il nous est dit, n'est-ce pas, qu'il nous est rappelé, Jean nous rappelle que Caïphe était bien celui qui avait donné le conseil précédemment déjà aux Juifs, il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, nous voyons le beau-père et le beau-fils, n'est-ce pas, Anne et Caïphe, absolument d'accord tous les deux, n'est-ce pas, ils ont un même dessein, et ce dessein, c'est bien celui-là de mettre Jésus à mort. En somme, leur justice ne peut plus disposer d'aucune liberté d'appréciation parce que ils ont déjà le verdict dans la tête, dans le cœur. Ben, ils ont déjà fixé le verdict. Alors, à quoi servira leur justice? Nous voyons déjà au départ, et c'est bien pour cela que le Saint-Esprit a voulu nous rappeler que Caïphe avait donné ce conseil, on s'est arrêté sur ce conseil. Ah, les Caïphes sont bien d'accord, naturellement, bon oui, il faut le mettre à mort, il faut trouver un motif, puis c'est tout. Voilà quelle était leur justice. Vous voyez, quelque chose de scandaleux, d'absolument honteux. Mais il en est toujours sur la terre ainsi, de plus en plus, chers amis. Et nous savons bien que dans les régimes communistes, sans pour cela exclure tellement l'Occident, hein, mais dans les régimes communistes particulièrement, le verdict est établi d'avance. Le jugement, la séance même du jugement, l'audience, n'est qu'une sorte de comédie, hein, mais tout est arrêté d'avance. Notre Occident n'est pas exempt de cela. Ça se passe peut-être différemment, mais hélas, chez les hommes, c'est ça. Il faut le condamner, on va le condamner. Ben, nous l'avons vu à notre époque moderne. Enfin, passons. Les hommes n'ont pas changé. Alors là, il arrive quelque chose d'assez curieux, parce que Simon-Pierre vient là, suit Jésus jusqu'au palais du souverain sacrificateur, et il est avec un autre disciple que Jean ne nomme pas. Généralement, on s'accorde pour voir que cet autre disciple est Jean. Tout le monde, tous les commentateurs ne sont pas d'accord, mais enfin... il semble bien que ce soit Jean lui-même. Or, ce disciple anonyme, qui n'est pas nommé, et qui est avec Pierre, donc il n'y a que deux disciples, les autres sont partis, mais ces deux-là viennent suivre Jésus jusqu'au palais. Et là, ce disciple anonyme est connu du souverain sacrificateur. Mais de quel souverain sacrificateur? De l'ancien, de Anne. Anne qui n'exerce plus et qui avait peut-être, moins de motifs pour être aussi intransigeant, aussi absolu, et peut-être avait-il une certaine sympathie pour ce disciple qu'il connaissait, qu'il devait donc connaître comme disciple de Jésus, voyez. Alors, mettons que ce soit Jean. Il y avait un motif qui ne nous est pas révélé pour lequel ce disciple inconnu est connu d'Anne, du souverain sacrificateur. Si bien que on le laisse entrer dans la cour du souverain sacrificateur, la cour carrée du souverain sacrificateur. Et à l'entrée du palais, il y a ce qui est appelé ici une portière, c'est-à-dire une servante qui est, si vous voulez, une concierge. Une concierge, tout simplement. Et cette servante, concierge, regarde les hommes qui entrent, elle ne laisse pas entrer n'importe qui, elle arrête qui n'a pas droit d'entrer. Alors elle a laissé entrer les huissiers, ça, elle a laissé entrer tous les juifs qui avaient quelque chose à faire, puis elle laisse entrer Jean, parce qu'elle connaît Jean. Elle connaît Jean, comme... ayant un certain lien avec le souverain sacrificateur. Ah, c'est toi, bon, toi qui peux entrer. Mais Pierre, lui, ah, je ne connais pas celui-là. Et il est laissé à la porte. Pierre n'entre pas. La portière, d'abord, ne le laisse pas entrer. Pierre resta dehors, près de la porte. Près de la porte. Mais, ensuite, lorsque l'autre disciple, mettons que ce soit Jean, n'est-ce pas, le disciple anonyme, cet ami de Pierre, n'est-ce pas, qui accompagne Pierre, eh bien, il intervient auprès de la concierge, disons, il intervient auprès d'elle, il va, une fois que tout le monde est entré, que c'est fini, le passage est terminé, il revient vers la concierge et puis il lui parle. Et il doit lui dire, eh bien, c'est un ami, vous pouvez avoir confiance, laissez-le entrer, ne soyez pas, ne laissez pas dehors, laissez-le entrer. Il intercède donc auprès de cette concierge pour que celle-ci le laisse entrer, et c'est en effet ce qui se produit. Pierre est en dehors, toi aussi, n'es-tu pas... Mais oui, c'est-à-dire que l'autre disciple, donc sorti, parla à la portière et fit entrer Pierre. Il obtient donc de la concierge la permission pour Pierre d'entrer. Mais au passage de la porte... la servante regarde, elle ne l'avait pas vu, il était resté dans la nuit dehors ou s'était montré simplement comme ça, elle l'avait refoulé, mais elle ne l'avait pas bien considéré. Mais voilà qu'il passe, n'est-ce pas? Et peut-être que la concierge dispose une lanterne et puis élève la lanterne jusqu'au visage de Pierre. Et puis elle dit, mais toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Là, Pierre n'avait aucune raison de s'émouvoir, puisque c'est sur l'intervention de Jean qu'il peut pénétrer dans la cour du souverain sacrificateur. Or, Jean est connu comme un disciple du Seigneur. Lui, qu'il soit reconnu comme disciple aussi du Seigneur, cela n'avait pas d'importance. Ça montre que Jean n'avait pas dit, c'est un, lui aussi, un disciple du Seigneur. Jean ne l'avait pas dit. Hein? Mais la concierge dit cela comme sans y attacher peut-être de menace aucune. Il n'y a aucune raison pas qu'elle dise ça d'un air menaçant avec l'intention d'aller le dénoncer, par exemple, puisqu'elle le laisse entrer. Elle le laisse entrer. Mais elle dit ça. Mais voilà que là, n'est-ce pas, Pierre commence à sentir ses entrailles lui manquer, n'est-ce pas? Il est saisi de peur. Comme il a eu peur lors de la tempête qui s'est élevée sur le lac. Comme il a eu peur lorsque il a posé les pieds sur les eaux, n'est-ce pas, allant au-devant de son maître. En somme, Pierre est un tempérament peureux. Il est spontané, mais c'est un peureux. Il est vite, il est hardi, n'est-ce pas, et comme en général tous ces gens qui ont ce caractère, qui sont hardis, eh bien, ils se précipitent, ils vont en avant. Et puis, vite, ils se reprennent, ils ont peur, ils sont saisis de peur. Arrive souvent, n'est-ce pas, que la hardiesse soit alliée avec la peur. Et il a peur devant cette femme qui, je vous dis, peut-être a fait ce geste, n'est-ce pas, d'éclairer son visage et de reconnaître en lui une sorte de Galiléen. Alors, il va dire, va répondre à cette femme, « Je n'en suis point. » Premier reniement. Pierre a déjà renié son maître. Premier reniement. Je n'en suis point. Ça a été spontané chez lui, n'est-ce pas? Et pourquoi? Mes chers amis, c'est que tout ce qui était les traits du caractère de ces hommes, eh bien, tout cela restait, subsistait. Ils n'étaient pas encore dépouillés. Ils n'avaient pas la force du Saint-Esprit. Ils ne devaient pas l'avoir là. S'ils avaient eu la force du Saint-Esprit à ce moment-là, d'abord l'Esprit n'était pas répandu sur toute chair, attention, on a déjà l'occasion de voir ça. Et ça aurait donc été une exception, mais une exception qui n'était même pas possible. J'ai développé ces raisons-là. Bon, donc, ils n'avaient pas l'Esprit, bien sûr. Ils étaient livrés à la faiblesse de leur chair, tout en ayant reconnu que Jésus était bien sorti de Dieu, tout en ayant gardé les paroles, comme Jésus l'a dit dans la prière sacerdotale. Cependant, ils étaient encore en proie à toutes les particularités, les faiblesses de leur tempérament propre. Alors, hardiesse, et puis peur. Alors, c'est cette peur injustifiée dans le moment, parce qu'on n'aurait rien fait à Pierre, puisqu'il était sous la protection, en quelque sorte, n'est-ce pas, chez le souverain sacrificateur, de cet autre disciple qui, lui, avait ses entrées, il avait même, n'est-ce pas, la possibilité faire fléchir la consigne observée par la portière, par la concierge. Alors, il n'avait rien à faire, mais il est saisi de peur, d'une peur injustifiée. Et il redit son maître, la chose est faite, la chair a fait son œuvre, la chair a capitulé. Il faut qu'elle capitule, mais attention, elle a capitulé, il ne faut pas que ce soit malgré tout un reniement qui aille trop loin, qui aille, n'est-ce pas, jusqu'à un rejet, parce qu'alors, ces hommes ne pourraient plus être les fondateurs de l'Église. Pierre, donc, est déjà victime de cette chair beaucoup trop faible et il est tombé. Et je fais remarquer en passant, chers amis, que si nous sommes livrés à notre chair, valons pas mieux, moins peut-être que Pierre, mais en tout cas, disons pas mieux. Ah non, nous valons pas mieux. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, nous voyons des chrétiens qui, pour un oui, pour un non, cèdent à la chair, sont infirmes, comme on dit quelquefois, du côté de leur chair, c'est-à-dire ils n'ont aucune force à opposer au mouvement de leur chair, de leur individualité humaine. Pourquoi? Eh bien parce que ils ne sont pas appuyés sur l'esprit, parce que leur foi est une pauvre chose qui, pour un oui, pour un non, sortir. Alors, évidemment, ils sont attachés à la chair, ils sont en proie aux faiblesses de la chair. Et dans la cour du souverain sacrificateur, voyez que Pierre ne risquait rien, c'est qu'il est là au milieu des huissiers, il est là au milieu de tous ces hommes, et personne ne lui dit rien. Les serviteurs du souverain sacrificateur et les huissiers avaient allumé un brasier, car il faisait froid, ils sont assez nombreux au milieu de la cour, ils allument un brasier, un brasero, quelque chose comme ça, hein, et ils se chauffent là tout autour, et puis Pierre est au milieu d'eux, se tenait avec eux et se chauffait. Lui aussi, il a besoin de ce feu, de ce foyer. Ça y est, il est parmi les autres, le disciple du Seigneur, l'apôtre, là au milieu de ceux qui sont venus arrêter son maître, de ceux qui sont tombés par terre. Mais lui aussi, il vient de tomber. Lui aussi, d'une autre manière, il vient de tomber. Il est là avec eux. Il est là parmi eux, avec les huissiers. Il se chauffe au feu. Comme c'est vite fait, chers amis, de tomber de cette position privilégiée que seule la fidélité à l'esprit peut procurer, comme c'est vite fait de tomber dans une situation tragiquement humaine qui est au niveau de celle des autres hommes du monde, comme c'est vite fait de quitter le privilège d'enfant de Dieu et de chrétien, comme c'est vite fait quand on abandonne l'esprit, comme c'est vite fait. Voilà Pierre, là. C'est un homme tout comme les autres. Rien ne peut plus le distinguer maintenant, pendant ce temps. Anne va interroger Jésus sur sa doctrine, dans le but évident de lui faire prononcer quelques paroles qui pourraient servir de motif à l'accusation. Nous avons dit tout à l'heure, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas d'accusation, de motif d'accusation explicite. Il n'y en a point, n'est-ce pas? Reprocher quoi à Jésus? Reprocher des choses qui sont inavouables. Par les sacrificateurs eux-mêmes, par les pharisiens, les chefs des juifs, c'est inavouable. C'est pas avoir. C'est leur privilège. C'est le fait que Jésus n'a pas voulu se faire roi, se laisser faire roi, n'a pas voulu accréditer, confirmer tous les avantages qu'il tenait. C'est inavouable. Ils sont hypocrites, c'est inavouable, l'hypocrisie ne peut pas s'avouer. Par conséquent, ils n'ont pas de motif d'accusation, mais Jésus ne va pas se laisser prendre à ce piège grossier, n'est-ce pas, et fournir un motif d'accusation à ces gens-là. Il ne va pas leur en fournir un. Il va falloir que l'accusation dévoile le mauvais cœur de ces gens. Et ils vont l'accuser sur une profession de foi de la vérité qu'ils vont traduire en blasphème. Mais cela sera une marque, disons, éternelle de la flétrissure de ces gens-là. La réponse de Jésus, évidemment, n'est pas une réponse de soumission. Il n'y a pas de raison qu'il se soumette à cet homme. Ah, n'est-ce pas? Et Jésus, vous le voyez, restant libre, il est libre, lui. Ça ne l'impressionne pas d'être devant Anne. Sa réponse est polie et correcte, mais il est évident qu'il parle librement et il lui dit, mais je n'ai pas caché mes paroles, tout le monde a pu les entendre, tous les gens que tu as autour de toi, ils les ont entendues, ils en ont fait des rapports, tu crois que je ne sais pas ces choses, ils en ont fait des rapports, alors pourquoi m'interroges-tu sur une des choses que tu sais déjà? Tu as eu toutes mes paroles, on te les a rapportées, pourquoi m'interroges-tu à nouveau? Ce qui montre, n'est-ce pas, qui met le souverain sacrificateur, disons, dans ses petits souliers, parce que, n'est-ce pas, ça lui montre que son but est hypocrite. Voyez-vous, devant le Seigneur, on ne peut pas rester hypocrite. L'hypocrisie est dévoilée. Elle est dévoilée. Mais il y a là un huissier qui voit une offense à la manière dont Jésus répond au souverain sacrificateur, et son zèle alors le pousse à donner un soufflet à Jésus. Mais là encore, la parole du Seigneur mettra en évidence le parti pris contre lui et l'inconsistance des motifs que l'on croit devoir se donner. Il ne faut pas que ces gens-là aient de motifs. Ils n'en auront pas, et cela parce que la justice est un bouclier. La justice protège. Et comment voulez-vous trouver un motif? Ils vont donc trouver un motif qui lui-même sera faux. C'est le motif qui contiendra la fausseté lorsqu'ils l'accuseront de blasphème parce qu'il aura dit « Je vous le dis, vous verrez désormais le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. » C'est la vérité proclamée, et c'est sur la vérité qu'ils vont l'accuser, n'est-ce pas? Mais, bien entendu, la justice est un bouclier. Et cela, chers amis, nous montre que si nous nous restons aussi attachés à la justice, Satan ou tous les hommes qui sont les auxiliaires de Satan ne pourront rien contre nous. Ils ne pourront rien faire.
Amen.